Chapitre 52. Le département de la sécurité intérieure a récemment ouvert une antenne dans l'un des bâtiments de l'aéroport de Killingfort Wood. Egon Godfrey et ses hommes possèdent tous les papiers de la sécurité intérieure, aussi vrais que ceux du FBI dont ils disposent. Avant de quitter les locaux de la police, Godfrey prend la précaution d'appeler le directeur adjoint afin qu'il prévienne ses gens. Le directeur adjoint fait partie des Arcadiens. C'est l'un des avantages d'infiltrer le gouvernement au lieu de préparer la révolution de l'extérieur. C'est d'autant plus intéressant que les agences concernées disposent des technologies les plus avancées. Lorsque Godfrey se présente à l'aéroport avec la glacière contenant les ampoules destinées à Hansel et Claire Hawk, un hélicoptère capable d'emporter 9 passagers l'attend sur le tarmac. Le pilote doit conduire le commando à Houston, où il atterrira à côté de la gare routière aux alentours de 22h. Deux agents en poste à Killeen sont chargés de les suivre au volant du Rhino et de la Jeep, mais ils ne seront pas sur place avant minuit. Godfrey leur a demandé de laisser les véhicules à l'hôtel Hyatt Regency, où il passera la nuit avec Baldwin et Penn. C'est ainsi qu'un hélico virtuel décolle de la ville virtuelle de Killeen à destination de Houston, autre cité virtuelle. Comme Godfrey et ses acolytes n'ont pas eu le temps de dîner, des sandwichs les attendent à bord de l'appareil. Des sandwichs tout aussi virtuels que le reste, bien qu'ils soient réellement délicieux. Ce n'est pas la première fois qu'un tel paradoxe ébranle les convictions d'Egon, mais il évite de s'attarder sur la question. L'hélicoptère, telle une libellule géante, entame sa descente au-dessus de la mégalopole et se pose sur un espace dégagé face à la gare routière. Le battement des pales provoque un nuage de poussière fantomatique à la lueur des réverbères. Godfrey et ses hommes attendent que le rotor se soit immobilisé pour quitter l'appareil et rejoindre le terminal des bus. Le responsable de la maintenance se nomme Louis Calloway. N'étant pas de service à cette heure tardive, il est revenu spécialement pour renseigner les visiteurs. Il en ressort que les bus, une fois les passagers débarqués, sont nettoyés et inspectés afin de s'assurer de leur bon fonctionnement mécanique. L'atelier de maintenance est un hangar immense dans lequel ne manquent pas les recoins sombres. Si Hansel et Claire se sont cachés dans les toilettes du bus de Killeen à l'arrivée, ils ont aisément pu en descendre et remonter dans un autre car, où ils se seront à nouveau tapis dans les toilettes en attendant que le véhicule prenne la route. Si ce scénario est envisageable, il n'est pas aisé à mettre en œuvre. Tout d'abord parce que les passagers ne sont pas autorisés à circuler dans le hangar et qu'il aurait fallu beaucoup de chance à Hansel et Claire pour ne pas être vus des mécaniciens. En outre, ils auraient dû descendre du premier bus en hâte avant l'arrivée des équipes de nettoyage et monter dans un autre car déjà nettoyé. Comment aurait-il pu savoir lequel? Et comment aurait-il pu avoir l'assurance de trouver des sièges libres en sortant des toilettes? S'ils en ont pris le risque, la chance leur a souri, car aucun chauffeur de la compagnie n'a signalé la présence de passagers en surnombre. Godfrey demande à Calloway la liste des bus qui se trouvaient dans le hangar à l'arrivée du car de Killeen, leur destination finale et leur heure d'arrivée, ainsi que le détail des arrêts effectués en route avec les horaires concernés. Visionner ensuite les images des caméras de surveillance va représenter un travail titanesque auquel Godfrey et ses hommes ne sont pas prêts ce soir. Egon se contente d'envoyer à son supérieur les renseignements fournis par Calloway en lui demandant de confier à ses équipes les recherches nécessaires pendant qu'il prend un peu de repos avec ses acolytes. À l'arrière du taxi qui les conduit à l'hôtel Hyatt Regency, Rupert s'installe entre son chef et Vince de façon à épargner au premier les sempiternelles logorées du second. Godfrey a posé la glacière à ses pieds. Le taxi a parcouru quelques dizaines de mètres lorsque Godfrey reçoit un coup de téléphone du chef de sa cellule, Sheila Draper Cruxton, juge d'appel de son métier. Leurs portables respectifs sont équipés d'un système d'encryptage conçu par la NSA, ce qui leur permet de discuter sans crainte des oreilles indiscrètes. Draper Cruxton confirme la bonne réception de la liste de Calloway. À l'image de tous les mouvements révolutionnaires depuis la nuit des temps, les techno-arcadiens sont organisés en cellules de petite taille. quand bien même l'un des affiliés trahirait, il n'aurait pas assez de contacts pour mettre en péril le complot. Les responsables de cellules reçoivent directement leurs instructions de responsables régionaux dont ils ne connaissent que le nom de guerre, et ces responsables sont eux-mêmes placés sous les ordres du comité central qui les a recrutés. Le grand ordonnateur a manifestement une prédilection pour tout ce cirque dont Godfrey se passerait volontiers. En attendant, la juge Draper Cruxton a su par son responsable régional que le couple auquel Jane Hawke avait confié son fils a été tué samedi après-midi à Borrego Springs, en Californie. Nul doute que l'enfant se cache dans les environs. Des Arcadiens attachés à diverses agences gouvernementales surveillent depuis les routes qui entrent et sortent de la vallée de Borrego, dans l'espoir de dénicher l'enfant et de capturer sa mère, dont personne ne doute qu'elle volera au secours de son fils. Par ailleurs, la juge a appris qu'un Arcadien dépendant de la sécurité intérieure a été abattu dans un petit bois au nord de Los Angeles. Il semble que la victime ait croisé la route de Jane Hawke alors qu'elle tentait de rallier Borrego Springs. Sheila Draper Cruxton est une femme aussi élégante que cultivée, dont Egon apprécie la finesse.
Ces divers événements rendent d'autant plus urgente la capture des beaux-parents, décrète-t-elle avec assurance.
Nous faisons au mieux, la rassure Egon en s'exprimant à voix basse, afin de ne pas être entendue par le chauffeur de taxi. Je m'efforce de suivre le scénario.
Il ne s'agissait nullement d'une critique de ma part. J'ai toute confiance en votre zèle. Cela dit, si les beaux-parents savent quoi que ce soit au sujet de la cachette de cet enfant, il est impératif de leur soutirer des informations. Il nous suffira alors de tendre une toile dans laquelle viendra s'empêtrer cette mouche de Jane Hawke.
Qu'attendez-vous de moi ?
Commencez par aller dormir, mais soyez prêts à partir à la minute où nous aurons pu localiser les beaux-parents.
Aucun souci, je suis toujours prêt, réplique Egon. Le scénario nous a réservé beaucoup de scènes d'action aujourd'hui.
Jolie métaphore, approuve la juge. Il s'agit de coincer Hawke au plus vite. Une question en attendant. Avez-vous laissé les mécanismes de contrôle à Worstead avec vos gens?
Non. Je les ai emportés puisque nous en avons besoin pour les beaux-parents.
Très bien. Dans ce cas, j'envoie une demi-douzaine d'agents au ranch afin de prêter main forte à vos équipes. Si jamais nous ne parvenons pas à retrouver les beaux-parents, il a été décidé d'implanter des mécanismes de contrôle à Chase et Alexis Longgreen, au cas où ils seraient au courant de la destination finale des Hawke.
Je doute que les beaux-parents leur aient fourni ce renseignement.
Moi aussi. Reconnaît la juge. Mais les Longgreen se sont suffisamment foutus de nous. Autant transformer en zombies ces merdeux incultes, pour en savoir le maximum. C'est la première fois que Godfrey entend la juge s'exprimer de façon aussi crue. Et si le grand ordonnateur voulait lui montrer que Draper Cruxton a des doutes sur leur capacité à capturer Jane Hawke ?